Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie d'être devant vous ce matin. Je vais prendre mes notes. La semaine dernière, on a commencé de lire ensemble, de méditer un petit peu le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Et puis la semaine dernière, on a lu le deuxième chapitre du livre de l'Exode, le titre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais pour ceux qui étaient là, c'était « Un homme libéré pour libérer un peuple ». Dieu libère Moïse de la mort et il le libère de l'Égypte en vue de libérer un peuple, de libérer son peuple, le peuple de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va voir un petit peu la suite du récit. On va voir, c'est plus un homme libéré pour libérer un peuple, mais c'est un homme rencontré pour rencontrer un peuple. On va voir que Dieu va s'approcher de Moïse. Dieu va rencontrer Moïse. Cette rencontre étant nécessaire pour que par la suite, Dieu puisse rencontrer son peuple. Donc, voilà, ça c'est notre série. Donc, hein, l'Exode, Dieu libère son peuple. Et puis, le titre du message aujourd'hui, c'est cela, un homme rencontré pour rencontrer un peuple. Avant d'attaquer le texte, je me permets juste de faire une petite note. Il y a comme une triple histoire qui se déroule, comme des échos répétitifs. Et je pense que c'est intéressant de voir cela. Hein. Moïse a été libéré de la mort et de l'Égypte par Dieu. Il a été mis au désert. Pourquoi mis au désert? Pour rencontrer Dieu. Ou, le texte, on le verra, hein, à Horeb, ou au Sinaï, hein, deux termes pour le même endroit, la même région. Plus tard, on va voir que le peuple de Dieu, donc Israël, a été libéré de la mort et de l'Égypte par Dieu pour être mis au désert. Mis au désert pourquoi? Pour rencontrer Dieu. Ou à Horeb, ou au Sinaï. Donc on voit déjà des similitudes entre l'histoire de Moïse et l'histoire du peuple. Mais plus tard encore, le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, l'Église, l'ensemble des croyants sont libérés de la mort et du péché par Dieu pour les mettre non pas au désert, mais pour les mettre à part. Pourquoi les mettre à part? Pour les rencontrer, pour leur permettre d'avoir une relation avec Dieu. Donc, vous voyez, il y a comme une similitude. Alors, cette pyramide, ce n'est pas pour dire qu'il y a une priorité, mais c'est pour dire que c'est comme si, en miniature, Moïse est en train de vivre ce qui va être vécu un peu plus tard par le peuple de Dieu, par Israël, et qu'il y a aussi une similitude qui va être vécue d'une manière encore plus grande plus tard par l'Église. C'est encore plus grand, parce que déjà, il y a un nombre toujours plus grand de personnes qui vont vivre cela, hein, mais aussi et surtout parce que cette libération est toujours plus grandiose, toujours plus complète. Donc c'est comme si Moïse, ici, dans le texte que je vais lire tout de suite, vivait au niveau individuel ce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu d'Israël, donc vivra quelques mois plus tard, et ce que nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui, quelques siècles plus tard. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce qu'en fait, ça nous montre que Dieu a un plan. Dieu ne fait pas les choses au hasard, mais Dieu a un plan et il nous montre par son action que tout ce qu'il fait est voulu, tout ce qu'il fait est réfléchi. Sur cette remarque, nous allons lire, si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher dans le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible au chapitre 3, et si vous n'avez pas votre Bible avec vous, le texte va être affiché ici. Karen, est-ce que je peux te demander de défiler le texte là, c'est le premier slide, mais au fur et à mesure de la lecture, de bien vouloir défiler le texte. Je vais donc vous lire Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. On va voir la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis. » M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voici ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici, même, qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras ces signes, les signes. » Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y, en toute tranquillité. » Jusqu'ici, la lecture de ce texte de la parole de Dieu. Première rencontre entre l'Éternel, entre Dieu et Moïse. Et il y a un échange qui s'établit entre Moïse et Dieu, un échange où Dieu va se présenter. Dieu va s'identifier un peu, il va lui dire, voilà qui je suis. Et un échange aussi où Moïse va par 5 fois objecter. Il va essayer de trouver plusieurs raisons pour ne pas entrer dans la mission que Dieu veut qu'il accomplisse. On va voir tout d'abord la rencontre, et puis ensuite on va passer par ces 5 objections que Moïse donne à Dieu. Premièrement, donc ça c'est les versets 1 à 10, la rencontre. Dieu vient vers Moïse et il le rencontre. Dieu a mis Moïse à part pendant 40 années dans le désert. Il fallait du temps pour que le pharaon décède, pour que Moïse puisse retourner en Égypte sans avoir peur d'être tué. Mais aussi, probablement, il fallait du temps pour que Dieu se fasse connaître à Moïse. Il y a déjà là, je pense, un enseignement pour nous, Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien régler les problèmes très rapidement. On aime bien quand en une demi-heure ou aller en un jour, on arrive à régler les choses. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu prend le temps nécessaire. Il prend 40 années pour former un homme en vue de mener un grand projet. En fait, même 80 ans, 40 années en Égypte, puis 40 années à Madian pour libérer son peuple. Et puis l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme, dans un buisson qui ne s'éteint pas. Dieu lui demande d'enlever ses sandales, et puis Dieu se présente. Dieu informe Moïse que ça y est, c'est le moment. C'est le temps où il va libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Il faut se dire que Moïse ne connaissait pas grand-chose de Dieu. Moïse avait grandi en fait en Égypte et puis à Madian. Et puis il y avait vraiment une prise de contact à faire. Moïse avait sans doute grandi essentiellement dans une culture polythéiste avec tous les dieux égyptiens que nous connaissons. Et puis il y a vraiment cette nécessité pour Dieu de dire voilà qui je suis. C'est le moment de faire les présentations. Alors j'ai noté 5 choses que Dieu va dire à Moïse. Il va lui dire, voilà qui je suis. Premièrement, Dieu se révèle dans un feu. Qui plus est, dans un feu qui ne consume pas le bois sur lequel il est en train de brûler. Un feu qui ne s'éteint pas. En fait, Dieu est en train de se présenter comme un Dieu de miracles. Un Dieu qui est hors de toute compréhension. Un Dieu qui est créateur et qui peut faire ce qu'il veut dans ce monde. Il peut faire des choses qui dépassent les lois de la nature, des choses qui dépassent notre entendement. Et là, Dieu est en train de se révéler à Moïse comme ce Dieu-là. Deuxième élément, Dieu appelle Moïse. Vous avez remarqué, hein, il lui dit « Moïse, Moïse ». Autrement dit, déjà, Dieu connaît Moïse. Il n'est pas en train de découvrir quelqu'un. Ce n'est pas une rencontre au même titre que nos rencontres que nous vivons en tant qu'êtres humains où on doit se présenter l'un à l'autre. Non, Dieu connaît Moïse. Et aussi, Dieu désire une relation avec lui. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui va faire l'effort de s'approcher de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui mène une grande quête à la recherche de Dieu et puis qui peut-être, par chance, après beaucoup d'efforts, va pouvoir le rencontrer. Non, c'est vraiment Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui, au hasard de ses péripéties dans le désert, va tout à coup attirer son attention et se révéler à lui. Donc un Dieu qui veut être en relation avec les hommes. La troisième élément, où Dieu se révèle, c'est que lorsque Dieu appelle Moïse, il lui demande, vous avez remarqué, d'enlever ses sandales. Et on peut être un peu, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu demande ça ? Ça peut sembler bizarre. Mais en fait, le texte nous le révèle, hein, parce que le lieu où tu es est une terre sainte. Pourquoi est-ce que c'est un lieu saint ? Pour la simple et bonne raison, c'est pas Horeb qui en soi est de différentes natures que d'autres lieux sur la terre. C'est parce que Dieu est présent. Le lieu où il est saint, parce que Dieu est saint. Donc, troisième élément, Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu saint. Le Dieu qui est séparé du mal. Le Dieu dans lequel ne se trouve aucune once, aucune trace de mal. Le Dieu qui est absolument parfait. Et Dieu révèle cela à Moïse en lui demandant d'enlever ses sandales. Quatrièmement, Dieu se présente comme le Dieu de l'histoire. Vous avez vu, hein, il se présente, et plusieurs fois dans le texte, comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors on ne sait pas trop ce que Moïse connaissait de ces personnes-là, mais en fait c'était des gens qui avaient vécu 400 ans avant lui, des gens qui avaient vécu pour l'essentiel dans un autre pays, mais on peut imaginer que Moïse avait entendu parler des pères de son peuple, hein, des fondateurs de son peuple, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob qui a été le premier à venir en Égypte. Donc Dieu se présente comme le Dieu de l'histoire. Il n'est pas juste le Dieu de l'instant, le Dieu de ce moment-là, mais il est le Dieu qui s'est déjà révélé à ses ancêtres et qui continuera de le faire tout au long de l'histoire. Puis la cinquième chose que Dieu lui dit, c'est qu'il se présente comme un Dieu de promesses. De nouveau, on ne sait pas exactement ce que Moïse pouvait connaître. Mais Dieu avait fait des promesses hyper claires à Abraham, Isaac et Jacob. À Abraham, il lui a même dit que ses descendants seraient esclaves pendant 400 ans en Égypte, après quoi il les libérerait. Donc en faisant référence à Abraham, Isaac, Jacob, Dieu est en train de lui dire, mais regarde en fait, je suis maintenant, c'est maintenant le moment, et je suis maintenant en train de réaliser mes promesses. Je suis un Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Ça a l'air anodin comme ça. Les 11 premiers versets de ce chapitre 3, on voit juste une petite rencontre, mais en fait, Dieu se présente vraiment à Moïse. Dieu, il n'arrive pas juste avec une mission, et il ne commence pas tout de suite en disant « Tu vas aller libérer mon peuple ». Non, il prend le temps de faire connaissance avec Moïse. Il prend le temps de lui dire « Voilà qui je suis et voilà qui est celui qui t'envoie en mission ». Puis maintenant, on passe à la suite du texte. Moïse va objecter un certain nombre de choses. Il va faire un certain nombre de remarques par rapport à ce que Dieu lui demande. Hein. Donc Dieu lui a demandé, il lui a dit « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ça, c'est la mission. Puis Moïse va interagir avec Dieu sur cette base. 5 objections que nous allons voir maintenant. Première objection, Moïse lui dit « Mais qui suis-je en fait ?» Il lui dit, mais En fait, moi, je suis personne pour aller parler au Pharaon, parler au peuple, à ton peuple, au peuple d'Israël. Je suis personne pour aller mener à bien cette mission. Et la réponse de Dieu, en gros, il lui dit, mais en fait, c'est pas toi qui vas aller, c'est moi. Je serai avec toi. Tu vas être le vecteur de la libération du peuple, mais l'acteur, la puissance qui libérera ce peuple, c'est moi. Il est en train de lui dire, en fait, Moïse, te trompe pas, hein. Je t'envoie pas tout seul pour accomplir de grandes choses. C'est moi qui viens avec toi pour libérer ce peuple. Et on voit ça, hein, dans toute l'histoire. Dieu se sert d'hommes et de femmes pour accomplir ce plan, son plan. Et souvent, Dieu se sert d'hommes et de femmes ordinaires, parfois même carrément moyens et parfois même carrément un petit peu craignos, hein. Et pourtant, Dieu fait de grandes choses avec ces personnes. Pas parce que c'est des génies, pas parce qu'ils sont particulièrement doués, mais parce qu'en fait, c'est lui qui agit, c'est Dieu qui agit au travers de ces personnes. Deuxième objection. Moïse dit, mais qui es-tu? Il lui demande son nom. Hein. T'as vu, il dit, ok, d'accord, je vais aller devant les Hébreux et je vais m'adresser à eux. Mais il faut que je leur dise qui tu es. Donc donne-moi ton nom. Et en fait, derrière le nom, c'est pas juste donne-moi ton prénom comme ça, comme dans notre culture. Il est en train de lui dire, mais qui es-tu vraiment? Et là, Dieu fait une réponse assez spectaculaire. Il lui dit, je suis celui qui suis. Et il dit, bah, tu vas et tu leur dis, je suis m'envoie vers vous. Grammaticalement, c'est un peu étrange comme formulation, mais c'est tellement profond. Dieu est en train de dire, je suis celui qui existe par essence. Je suis, point. Je suis de toute éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Je suis dans l'éternité passée. Et je serai dans l'éternité future. Je suis un point, c'est tout. Mais c'est pas la seule chose que cela signifie, hein. Quand Dieu dit je suis, il est en train de montrer son indépendance de toute chose. Nous sommes toujours dépendants d'une cause supérieure en tant qu'être humain. Et on peut se qualifier par plusieurs manières. On peut dire, par exemple, je suis le fils d'un tel et d'une telle. En fait, si mes parents enfin, voilà, n'avaient pas désiré avoir un enfant, je ne serais pas. Donc, je suis dépendant de mes parents. Ou, je sais pas, je suis de telle ou telle profession. Ben, en fait, je m'inscris dans le cadre de la société humaine et j'appartiens à tel ou tel groupe social ou à telle ou telle profession. Mais on se rend compte que, voilà, nous ne sommes pas de manière absolue. Alors que Dieu peut dire, lui qui est parfaitement indépendant de toute chose, il dit, je suis, point. Je suis celui qui est. Dieu ne doit son existence à rien. Il est le créateur. Il n'est pas dépendant des circonstances, mais il est un point, c'est tout. Si on devait mesurer, je sais pas, l'activité de Dieu avec un espèce de je sais pas, d'oscilloscope ou d'électroencéphalogramme, Dieu est la constance même. Il est. Il n'y a pas un début et il n'y a pas un moment où il se fatigue et puis ça redescend ou quelque chose comme ça. Dieu est. Point. Puis il y a une troisième manière, je pense, de comprendre cette affirmation je suis. C'est que Dieu se met, je pense, là aussi un peu en contraste avec les dieux égyptiens ou peut-être d'autres divinités que Moïse pouvait connaître à l'époque. Il est en train de lui dire, mais moi je suis le Dieu de la réalité, je suis le Dieu vrai, le Dieu qui existe réellement. Contrairement aux dieux égyptiens, justement, ou à d'autres divinités qui existent uniquement dans le cœur des hommes qui les vénèrent, Dieu, lui, existe bel et bien. Il existe réellement. Il existe en dehors du cœur humain. Bref, Dieu est. Et puis, Dieu donne une autre caractéristique, au même titre qu'il s'était révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu fait aussi référence ici aux ancêtres. Il montre qu'il est le Dieu du monde entier, parce qu'il est, mais qu'il est aussi d'une manière particulière le Dieu des Hébreux. Dieu dit cela pour rappeler au peuple d'Israël, à ce moment-là, qu'il avait fait cette alliance, une alliance bien spécifique avec son peuple. Et Dieu est en train de dire à son peuple, je vais prendre soin de vous maintenant, je vais vous délivrer maintenant. Troisième objection de Moïse, c'est qu'est-ce qui me crédibilisera ? Parce que Moïse, il n'est pas bête, hein, il dit, ben oui, mais moi je vais me pointer devant les Hébreux, et je vais leur dire, je suis, il m'envoie vers vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils vont me dire, mais non, t'as jamais rencontré Dieu, c'est n'importe quoi. Et Dieu lui promet deux signes, en fait, même trois signes, hein, qu'il va pouvoir déjà expérimenter lui-même, directement. C'est un peu comme si Dieu, en fait, dit, ok Moïse, je te donne déjà deux signes pour te crédibiliser par rapport à toi-même. Et puis, ça te servira aussi à te crédibiliser par rapport au peuple. Il y a d'abord ce serpent, hein, ce bâton qui se transforme en serpent et puis qui se retransforme en bâton. Et puis, il y a cette main, hein, qui met dans son habit, là, et puis qui ressort pleine de lèpre, et puis qui le remet et qui ressort saine. C'est comme si Dieu voulait un peu marquer l'esprit de Moïse et plus tard marquer les esprits des Hébreux pour leur dire, oui, c'est vraiment l'Éternel, c'est vraiment Dieu qui se révèle. Deux signes qui ont un peu une similitude. Vous avez remarqué, hein, c'est deux choses bonnes, ce bâton dont il se servait pour marcher ou pour son métier de berger, et puis sa main, deux choses bonnes qui vont être rendues dangereuses. Le bâton qui devient un serpent, la main qui devient pleine de lèpre, deux choses bonnes en fait qui deviennent mortelles et que Dieu fait redevenir bonnes. C'est un peu comme si Dieu annonce, je suis le Dieu qui peut changer les choses, le Dieu qui va pouvoir sortir le peuple de l'esclavage pour le rendre totalement libre. Quatrième objection de Moïse, il dit mais qu'en est-il de mes limites ? Moïse dit, ouais, mais Dieu, tu sais, moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer en public. Enfin, on ne sait pas exactement, certains estiment que peut-être Moïse bégayait ou quelque chose d'autre. On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, il avance cela. Il lui dit, mais moi, j'ai des limites. Tu aurais meilleur temps de prendre quelqu'un de plus doué ou de plus éloquent. Mais encore, un problème qui ne tient pas la route. Vous avez vu la réponse de Dieu, hein ? Il lui dit, en fait, moi, je suis le créateur. C'est moi qui donne les bouches, les yeux, les oreilles aux personnes. C'est moi qui tisse les fibres musculaires de tes lèvres et de ta langue pour que tu puisses parler. Est-ce que tu ne crois pas que j'ai le pouvoir de te rendre éloquent à l'instant où je désirais que ça se produise ? Puis il lui dit en plus une autre chose, il lui dit « Mais en fait, je vais être avec toi. Je vais te dire à l'instant ce que tu devras dire devant Pharaon et sa cour. » Et puis, on arrive à la dernière objection, un peu le point ultime. Moïse dit, mais en fait, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Il dit, mais pourquoi moi ? Envoie n'importe qui d'autre, mais pas moi. C'est un peu ouais, l'objection ultime, le dernier recours que Moïse peut mettre en avant. Et là, Dieu se met en colère, vous avez vu, hein ? Il se met en colère, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je t'envoie ton frère, Aaron. Lui, il pourra parler, enfin, c'est-à-dire que moi, je me révélerai à toi, toi, tu pourras donner les paroles à Aaron, et Aaron, lui, pourra parler à Pharaon et à sa cour. Ainsi, ton frère, Aaron, le Lévite, t'assistera dans ta tâche. Et voilà, on arrive au bout de ce texte. Dieu a fait connaissance avec Moïse. Moïse a fait des objections, Dieu y a répondu. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend de ces cinq objections ? Ce qui me frappe à la lecture de ces cinq objections de Moïse, c'est que c'est en fait Dieu lui-même pallie toutes les objections de Moïse. Dieu n'est pas en train de chercher des solutions, hein, il n'est pas en train de lui dire qu'il va prendre des cours de diction pour améliorer son élocution. Dieu n'est pas en train de dire, écoute, je vais te former, je vais faire un peu de coaching avec toi pour que tu sois plus à l'aise et puis que tu puisses convaincre par des techniques de manipulation le peuple hébreu que c'est bel et bien moi qui t'envoie. Dieu fait rien de tout ça. Dieu dit, écoute, c'est moi qui prends en charge chacune des choses, chacune des objections que tu mets devant moi. C'est moi qui serai avec toi. Première objection, c'était qui suis-je, hein? Dieu lui répond, bah, pas de souci. C'est moi qui serai avec toi. Ce n'est pas toi qui pars en mission. C'est moi qui pars en mission pour libérer mon peuple. Deuxième objection, Moïse avait dit, qui es-tu? Et Dieu avait répondu, je suis celui qui suis. Je suis là, je suis avec toi, j'existe et je vais agir pour la libération du peuple. Troisième objection, qu'est-ce qui me crédibilisera? Dieu dit, bah, c'est moi, je te donne deux signes qui serviront à crédibiliser, à convaincre ton auditoire. Quatrième objection, qu'en est-il de mes limites? Et Dieu répond, mais c'est moi qui t'ai créé. Et il lui répond en plus, c'est moi qui te dirai à l'instant même ce que tu devras dire à Pharaon. Puis cinquième objection, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et là, Dieu lui répond, bah, écoute, Moïse, c'est moi qui vais faire quelque chose. Je vais t'envoyer ton frère Aaron. Et c'est lui qui parlera à ta place. Et on voit que c'est encore Dieu qui agit. C'est à chaque étape, Dieu qui rend la mission de Moïse possible. Dieu va tout faire, en fait, pour que cette mission soit menée à bien. Moïse n'est donc pas du tout le héros de cette libération. C'est de manière absolument claire Dieu qui est ce héros. On l'a dit, hein, il y a une similitude entre Moïse qui libère le peuple et Jésus-Christ qui nous libère. Et on va revenir maintenant un petit peu à nous, parce qu'on voit qu'il y a des similitudes entre ce que nous vivons, nous les chrétiens du 21e siècle, et ce que Moïse a vécu il y a 3500 ans. Christ est mort pour nous, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ a accompli la grande mission de libération de l'humanité. Il nous libère pour que tous celles et ceux qui se confient en lui puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Si nous plaçons notre foi en Jésus aujourd'hui, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes vus par Dieu comme saints. Ça ne dépend pas de choses qu'on aurait fait, ça ne dépend pas de nos performances, ça dépend juste de ce que Christ a accompli à la croix. Mais de manière un peu similaire, nous aussi, Dieu nous envoie en mission. Au même titre que Dieu a rencontré Moïse, Dieu nous rencontre en Jésus-Christ et nous rencontre pour que nous partions en mission. Alors bien sûr que notre mission est totalement différente de celle de Moïse. Bien sûr que le contexte a beaucoup changé, mais il y a au moins deux choses qui n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu avait donné une mission à Moïse et il nous donne une mission aujourd'hui qu'on va voir dans un instant. Et en fait, au même titre que Dieu a tout mis en place, il a tout fait pour que la mission de Moïse soit menée à bien, Dieu met tout en place, il fait tout pour que notre mission aujourd'hui soit menée à bien. Ça, c'est la première chose qui ne change pas. Dieu ne change pas. Et la deuxième chose, c'est la nature humaine qui ne change pas. Même si la culture a changé, la langue a changé, beaucoup de choses ont changé, notre nature humaine profonde, elle, ne change pas. Nous aussi, aujourd'hui, 3500 ans plus tard, même si peut-être nous connaissons Dieu, même si Dieu se révèle à nous, bien souvent nous objectons. Bien souvent, nous ne voulons pas entrer dans la mission que Dieu nous donne. Quelle est la mission que Dieu nous donne aujourd'hui? Je vous lis simplement deux versets bien connus dans l'évangile de Matthieu. Voilà les paroles que Jésus-Christ nous a laissées avant de retourner vers son Père dans la gloire. Il a dit à ses disciples, et en fait il a dit par extension à tous ses disciples, donc à tous les croyants à travers les âges. C'est donc Matthieu 28, les versets 18 à 20, enfin 18b jusqu'à 20. Il a dit ceci. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je ne sais pas si vous voyez comme une similitude. Dieu a répondu systématiquement à Moïse, « C'est moi qui vais prendre en charge cette objection. C'est moi qui vais être avec toi. C'est moi qui vais agir. » Et là, quand Dieu donne cette grande mission à ses disciples, il dit quoi ? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et puis un peu plus loin, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Dieu, en substance, hein, Dieu dit un peu la même chose. Il dit « C'est moi qui vais être là. C'est moi qui vais faire la mission. Vous n'êtes pas tout seul et vous ne devez pas être les grands héros de la foi chrétienne qui allaient propager l'évangile dans le monde. C'est moi qui vais faire cette œuvre-là. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourtant, on objecte. Qui suis-je ? Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas assez saint pour entrer dans cette grande mission que Dieu me donne. Pourtant, c'est Dieu qui va faire l'œuvre. C'est lui qui est avec nous. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle. Moi, ce que je dois juste faire, c'est me mettre à disposition. Qui es-tu ? On a tant de connaissances sur Dieu. On a tant de connaissances sur la Bible. On sait, même si peut-être que peut-être que tu as très, très peu de connaissances bibliques, mais tu as au moins quelques notions pour savoir que Dieu est celui qui est tout-puissant, celui qui est créateur, celui qui a amour, celui qui est juste, celui qui est saint, celui qui sait tout, celui qui est patient et encore bien d'autres choses. Dieu est tout cela. Mais par-dessus tout, il est celui qui est le vrai Dieu, celui qui existe vraiment. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc on peut mener à bien cette mission en sachant qui est Dieu. Qu'est-ce qui me crédibilise ? Ce n'est pas moi-même qui dois me crédibiliser auprès des personnes. C'est Dieu qui va nous crédibiliser. N'ayons pas peur de notre crédibilité. Si on veut être des témoins de Jésus, on va sans doute rencontrer de l'opposition. On va sans doute être peut-être moqué, voire persécuté. Mais en fait, qu'est-ce qui me crédibilise ? Est-ce que c'est l'image que les gens ont de moi ? Ou est-ce que c'est mon identité ? Mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Je suis un représentant, un témoin de Dieu dans ce monde. Donc la crédibilité est assurée. On n'a pas à avoir peur de ce que les autres penseront, diront, ou l'image qu'ils auront de nous. J'aimerais vous laisser juste un petit exemple pour illustrer cela. Notre plus grande fille, Lina, elle a 4 ans, elle est à l'école primaire, elle vient de rentrer à l'école primaire, et parfois, voilà, elle est triste quand ses amis de l'école lui disent, par exemple, je sais pas, qu'elle est un bébé. Souvent, enfin, voilà, c'est le genre de choses qu'on dit quand on a 4 ans. Et je lui dis, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu es un bébé ? Ben non. C'est une petite fille de 4 ans. Elle ne parle pas comme un bébé, elle n'agit pas comme un bébé, elle a beaucoup plus d'autonomie, et elle a beaucoup plus de capacité qu'un bébé. Donc, c'est pas ce que les autres voient ou pensent d'elle qui la crédibilise. C'est son identité qui la crédibilise. C'est ce qu'elle est qui fait qu'elle n'est pas un bébé. Et je crois un peu de la même manière, on n'a pas à avoir peur du regard des autres, d'être peut-être décrédibilisé dans les yeux des autres. Ce qui compte, c'est notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Qu'en est-il de mes capacités ? Ça aussi, ça peut être une question qu'on se pose, hein. Je n'ai pas les connaissances, je ne peux pas faire grand-chose dans la mission que Dieu me donne, je n'ai peut-être pas de contact ou j'ai peut-être des difficultés relationnelles. Mais c'est Dieu qui nous rend capables. C'est lui qui est le créateur des relations. C'est lui qui est le créateur de chacune de nos capacités. Donc en fait, quand on dit « je n'ai pas les capacités », on est en train de dire peut-être même que Dieu n'a pas les capacités. On doit être réaliste et compter sur Dieu qui nous rend capables. Puis la dernière objection, hein, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Bien sûr que Dieu pourrait utiliser quelqu'un d'autre. Personne n'est absolument nécessaire pour accomplir la mission de Dieu, mais Dieu choisit de nous utiliser, de t'utiliser toi en particulier, dans un contexte précis, avec des personnes précises. Dieu choisit de nous utiliser, nous aussi, Église évangélique, Action biblique, de la Servette, pour faire avancer, pour accomplir sa mission. Alors allons-y, entrons dans la mission que Dieu nous donne. Allons, faisons de toutes les nations des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignons-leur à observer tout ce que Jésus a prescrit. Comment on fait ça concrètement ? Et j'aimerais terminer en fait par vous donner trois outils qu'on met en place en tant qu'Église, et comme c'est le début de l'année, je profite aussi de vous en parler. Trois outils qui nous aident soit à nous équiper, soit à mener cette mission. Le premier outil, c'est quelque chose qu'on va vivre dans une semaine, c'est une semaine de jeûne et de prière. Et il y a des petits feuillets que je devais avoir pris là, voilà. Des petits feuillets comme celui-ci, qui sont là derrière, et sur lesquels on a un petit peu le programme de cette semaine de jeûne et de prière. Donc ce n'est pas ce lundi, mais c'est le prochain, lundi prochain, le 16, du lundi au vendredi, on va faire 5 jours de jeûne et de prière ensemble. Et en fait, 3 fois par jour, tous les horaires, tout ça, ce sera écrit sur cette petite feuille, 3 fois par jour, on va se réunir ici pour prier ensemble avec ceux qui le désirent. Seulement, cette année, petite nouveauté, j'ai mis les thèmes des temps de prière sur ce feuillet. Comme ça, si vous êtes chez vous et vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez quand même prendre le temps de prier à chacun des créneaux avec l'ensemble de l'Église. Mais si vous avez l'occasion de venir, venez. Ce sera aussi une semaine de jeûne. Donc, si vous avez envie peut-être, je sais pas, de sauter un repas ou de mener un jeûne d'une autre nature, je sais pas, de dire, bah voilà, pendant 5 jours, j'allume pas mon téléphone ou je me déconnecte un petit peu. Ce sera l'occasion de s'approcher de ce Dieu, de réaliser tout à nouveau qu'il est celui qui va permettre que nous menions à bien cette mission. C'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais mettre en avant, ce sont les groupes de maison. On a des groupes de maison ou des groupes de quartier. Ça, c'est un lieu d'équipement pour nous permettre de grandir afin de rentrer toujours mieux dans cette mission. Les groupes de maison, c'est des petits groupes parce qu'on s'est rendu compte il y a un an qu'on était trop nombreux le dimanche pour pouvoir vraiment bien se connaître et bien avancer et progresser ensemble. Et on s'est dit, ce serait super si on pouvait se voir en plus petits groupes pour développer des amitiés, pour développer des relations familiales. Alors cette année, on vous propose 6 groupes de maison. Il y a une carte sur le panneau là-bas, vous pouvez voir les lieux où ça se passe, les horaires où ça se passe. Et ici derrière sur le comptoir, il y a des listes où vous pouvez vous inscrire. En fonction du lieu, du jour et du créneau horaire, vous pouvez regarder ce qui vous convient le plus et vous inscrire à un de ces groupes de maison. J'ai mis aussi les coordonnées de tous les responsables des groupes de maison, donc vous pouvez contacter librement un ou l'autre de ces responsables pour lui demander un petit peu plus d'informations. Notre souhait, vraiment, c'est que nous tous, on puisse intégrer un groupe de maison pour que, vraiment, on vive ces relations familiales, ces relations de frères et sœurs, et on s'encourage ensemble dans la mission que Dieu nous a donnée. Et puis, la dernière annonce que j'aimerais faire, c'est qu'on a un peu un projet d'ici janvier. Ça s'appelle « Question à Dieu ». On va poser une question à un maximum de personnes autour de nous. Il y a des flyers qui sont en cours d'impression, on les aura la semaine prochaine, mais je vous annonce déjà cela. On va aller voir les personnes autour de nous, nos voisins, nos collègues, notre famille, ou même des gens dans la rue, peu importe. Et on va leur dire, mais si tu avais l'occasion de poser une question à Dieu, qu'est-ce que ce serait? Et puis les gens vont pouvoir répondre. Ils vont, en fonction de leur parcours, en fonction de là où ils en sont, ils vont peut-être avoir différents types de questions. Ils vont pouvoir répondre par mail, par Facebook. Ils vont pouvoir poser des questions. Et puis en janvier-février, on va organiser 3 soirées conférences où on va donner une réponse biblique aux 3 questions qui auront été le plus posées. Le but, c'est vraiment que des gens... Enfin, le but, c'est au lieu de présenter le message de l'Évangile de manière directe, c'est plutôt de partir des questions des personnes pour apporter des réponses bibliques à ces questions. C'est vraiment quelque chose qu'on peut tous faire, je pense, assez facilement. Et si vous pouvez avoir plusieurs centaines de questions qui sont posées, ce serait génial. Et surtout que, voilà, après, on puisse inviter des personnes à venir à ces 3 soirées. Donc voilà, 3 moyens d'entrer et de progresser dans cette mission que Dieu nous donne. La semaine de jeûne et de prière, les groupes de quartier, et puis ce projet question à Dieu. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie parce que c'est vrai, tu es un Dieu qui a voulu nous rencontrer. Tu veux nous rencontrer pour que par la suite d'autres puissent te rencontrer. Aide-moi, aide-nous à entrer dans cette mission. Aide-moi, aide-nous à comprendre que ce n'est pas notre mission, mais c'est ta mission. Tu es le grand architecte, tu es le grand acteur de cette mission. C'est toi qui fais l'œuvre. Alors aide-nous à mettre de côté les objections et à entrer pleinement, pour chacun d'entre nous, dans cette mission que tu nous laisses. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.